l'émission
Santé
de Radio Sainte-Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette émission du mois de décembre de À la vôtre, nous vous proposons deux temps. Dans un premier temps, nous verrons avec Patricia, une infirmière de bloc, retraitée et militante au Manifeste, une présentation sur ce rapport MUPI, ce rapport d'audit dont les médias se sont fait l'écho et qui parle d'une hypothèse d'hôpital médian entre Millau et Sainte-Afrique avec la fermeture des deux hôpitaux existants en tant qu'hôpitaux. Donc une fois qu'on aura vu ça, on fera le point, on reprendra en fait un interview réalisé avec Michel Anthony, qui est un président fondateur de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Nous ferons le point avec lui. Ce point a été fait à la fin de la première vague de la Covid-19. Et donc, il avait donné son point de vue sur la situation. Et puis, il nous dira deux mots sur les conditions dans lesquelles la coordination s'est créée. Nous poursuivrons cet entretien dans une émission ultérieure avec lui. Donc, bonne écoute. À tout à l'heure.
L'émission
Santé
de Radio Sainte-Afrique.
Bon, aujourd'hui, nous allons voir le rapport MUPI, c'est-à-dire ce rapport, cette audit, cette étude qui a été cachée et qui vient de paraître en début d'année par l'intermédiaire d'une militante de la CGT qui l'a communiqué, de l'hôpital de Millau, que nous avons pu étudier au niveau du Manifeste. Et nous allons en discuter avec Patricia, qui est une infirmière retraitée, membre du Manifeste, militante du Manifeste, de manière à avoir aussi un point de vue. Vous pourrez bien évidemment vous reporter à une étude plus fine de cette présentation assez rapide que nous allons faire de ce rapport, le Manifeste, @orange.fr, et vous sera communiqué aussi bien le rapport que les analyses qu'en a fait l'association. Alors ce rapport MUPI, il a été caché en fait pendant deux ans, parce qu'il date quand même de juillet 2018, et il est là pour éclairer la décision d'un comité de pilotage dans lequel il y a les anciens maires de Millau et de Sainte-Afrique, le député, les directions des hôpitaux et les représentants des médecins de ce qu'on appelle les présidents de CME. Puis bien sûr l'ARS qui chapeaute tout ça, sachant que les directions des hôpitaux sont assurées par un seul homme, représentant lui-même de l'ARS. Donc voilà, ce rapport a été discuté pendant deux ans. Le groupe d'études qui a été payé pour ça, la société en fait de consultants qui a été payé pour ça, a fait des hypothèses et le comité de pilotage a abouti à une hypothèse. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ce rapport. En fait, le principal pour un habitant du Sud-Aveyron, c'est de savoir quels sont les services qui vont être assurés à proximité, les services modernisés, qu'est-ce qui va s'améliorer par rapport à la situation actuelle des deux hôpitaux qui, par ailleurs, on pourra y revenir, mais se dégradent réellement en ce moment. Dans les chiffres qui sont donnés, rien n'apparaît de nouveau. Et donc, il y a quelques orientations qui sont données. Par exemple, si on prend sur ce qu'on appelle tout le secteur maternité.
Alors déjà, moi, j'aimerais revenir sur le fait que ce rapport, il est basé sur des chiffres de 2016, on l'a vu. L'offre de soins actuelle n'est peut-être déjà plus à la hauteur de ce qu'elle présentait à cette époque-là. Et ça, c'est très dommageable, parce que les secteurs de pointe pour une population, on va dire, rurale, hein, enfin, parce qu'il est évident que toutes les périmètres de soins ne peuvent pas être comparables, que ce soit dans une ville avec un grand plateau technique ou dans un hôpital de proximité tel qu'il est utile dans le secteur qui nous concerne pour le Sud-Aveyron. Et donc, on ne pourra comparer qu'avec des situations qui répondent aux besoins. Avec les points phares que moi je note à Sainte-Afrique ou à Millau, c'est quand même un secteur de gynécologie obstétrique et pédiatrie en ce qui concerne tout l'investissement, y compris associatif, population qu'on a envie de récupérer aussi dans ces coins-là. On ne peut pas recruter une population assez jeune dans la ruralité sans avoir une offre de soins qui corresponde aux besoins, par exemple, d'une femme, d'un couple avec des projets d'enfants ou de familiaux. Voilà. Donc, et là, le comparatif avec le projet médian, a priori, il regroupe ces deux, ces deux secteurs sur un même site, mais sans proposer de vrai niveau restaurant niveau 1. Par rapport à la proximité et aux besoins de ces populations, les deux sites permettent de gérer actuellement la situation. Ensuite, bon, l'autre secteur qui me paraît important, c'est l'accueil des urgences, ce qui se fait actuellement à Millau et à Sainte-Afrique, qui ne seront jamais des urgences cardiaques, par exemple, mais qui permettent de gérer, en tout cas, un acheminement si la difficulté est plus importante, ou répondre à une petite urgence si c'est avec une nécessité, évidemment, de permanence des soins.
Ce qui veut dire, a priori, un bloc quand même. C'est-à-dire, il y a une capacité actuelle d'intervention sur le cardiaque, par exemple, de prise en charge pour stabiliser la situation avant l'envoi pour une intervention chirurgicale plus pointue. Mais il y a quand même une capacité actuellement dans les deux hôpitaux d'accueil d'urgence pour un minimum d'intervention chirurgicale.
Oui, mais comme pour l'obstétrique, hein, le bloc actuel obstétrical sur ces deux sites permet de faire des césariennes, des épisiotomies, des choses qui sont tout à fait dans les compétences locales. Et si le cas s'avère plus important, l'important c'est la prévention et la préparation, le suivi de ces parturientes qui doivent arriver dans un lieu qui correspond à leurs besoins au moment à leur âge, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir anticiper. Et on cible pas la taille du bloc opératoire au dernier moment. On l'anticipe au maximum. Et l'intérêt donc il y a déjà un bloc opératoire, il y a déjà le personnel et les compétences nécessaires pour l'accueillir. Et ce sera jamais au plateau technique. Et de toute façon, c'est même pas prévu dans les fameux hôpitaux médians. Alors
maternité, on a compris, ça rejoint d'ailleurs ce que a dit sur cette antenne le professeur Cesbron. Qu'il y a un énorme travail avant l'accouchement, de manière à effectivement anticiper la situation et, si possible, arriver à un niveau. C'est ce qui explique qu'il y a des maternités de différents niveaux. Et on va, la parturiente, la mère qui va accoucher, va vers la maternité avec la réponse technique dont on pense qu'elle va avoir besoin. Effectivement, on est dans le cas de Sainte-Afrique et de Millau sur deux hôpitaux qui sont des maternités, ce qui correspond à 90-95% des situations où tout va bien se passer et la sage-femme, grosso modo, va assurer. Mais avec quand même une capacité à reprendre quelques petits gestes,
Il n'y a pas de petits gestes, tous les gestes sont importants. Mais non seulement il y a les compétences pour le faire, mais il y a un bloc opératoire, il y a donc le personnel, et en plus il y a la confiance dont une femme a besoin pour se sentir partante pour cette intervention, et qui ça s'est construite au fil des mois, puisque quand même ces deux hôpitaux sont connus pour leur gestuelle et leur approche des parturientes, justement, tout au long de la grossesse.
Une des difficultés évoquées quand même par les médecins, en l'occurrence, c'est aujourd'hui la capacité à organiser les gardes, en disant que s'ils sont organisés ensemble, ils ont une plus facilité pour venir en urgence quand c'est nécessaire d'appeler, etc., ce qu'on appelle les gardes. Et ça, c'est un argument qu'on peut entendre, mais c'est vrai que rien d'un point de vue technique n'est amélioré dans le projet de ce qu'on voit de l'hôpital médian tel qu'il est figure dans le rapport MUPI. Il y a juste un problème d'organisation entre médecins qui peut éventuellement être résolu, mais y compris en quoi le fait qu'il y ait deux structures rend plus difficile cette intervention, sauf à imaginer qu'il y ait deux cas d'urgence simultanément dans les deux hôpitaux et que le chirurgien obstétricien ne peut pas se déplacer à ce moment-là sur les deux. Mais en multipliant des exemples de ce type avec des si, on va finir par expliquer qu'il faut tout faire à Montpellier. Je ne sais pas comment tu réagis à une interpellation comme celle-là.
Moi, je pense que de toute façon, justement, la préparation, la prévention, le suivi de la grossesse et tout permettent déjà de classer, de se projeter sur le niveau de gravité, donc la situation précise de ce moment auquel correspond l'accouchement. Et ça, c'est anticipé. Il y a forcément la nécessité d'avoir un médecin dans les parages, un gynécologue obstétricien, ça c'est évident. Mais ça correspond aux besoins d'un bloc opératoire. Alors après, Après, si le plateau technique est envisagé, c'est à mon avis quand même, dans cet hôpital médian, c'est parce qu'il permet le regroupement, la restructuration de services, et donc quand même un impact sur une gestion des personnels et du corps médical, qui permettrait un plus. Ça, on n'a pas assez de précision, je crois, dans ce rapport pour arriver à voir si vraiment ce sera une amélioration ou ce sera simplement une difficulté supplémentaire de distance. Donc.
Oui, alors, j'entends un plus. Comprenons-nous sur les mots. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un moins. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres tels qu'ils figurent dans ce rapport, c'est qu'effectivement, le regroupement est envisagé avec une conséquence importante, c'est 200 emplois à temps plein supprimés, c'est-à-dire quand même une grosse baisse de capacité d'accueil des hôpitaux. Donc on éloigne les gens, comme tu le pointais, Donc on sait très bien aujourd'hui, et c'est documenté d'un point de vue scientifique, que l'éloignement de la prise en charge, que ça soit pour un accouchement ou pour une urgence, est quelque chose qui provoque des aggravations de situation, des décès. En provoquant un éloignement, c'est pas un plus, c'est un moins. En regroupant le personnel pour supprimer du monde, c'est un moins. Alors le plus, il est où le plus dans ce, moi je le vois pas beaucoup, parce que le plus, ça pourrait être quoi dans un plateau technique?
Ben le plus, ce serait éventuellement de changer de niveau de maternité, par exemple. C'est vrai que plus on a, si les moyens financiers de cet hôpital médian étaient à la hauteur des besoins matériels, ce qui correspondrait à un plateau technique de pointe, hein, ça permettrait de passer de maternité niveau 1 à maternité niveau 2. J'ai connu les problèmes de restructuration de service. Je suis infirmière de bloc opératoire, deux blocs de la même spécialité ont fusionné. Il est évident que tout le personnel, il y a eu des conséquences au niveau du personnel. C'est mathématique, quoi. On ne restructure pas deux services en un sans qu'il y ait des conséquences et sur le personnel. Alors quand c'est un plus de moyens, ça peut être discuté. Là, on le sait pas. A priori, il n'est pas prévu qu'il y ait des moyens ou un niveau supérieur de services rendus, entre guillemets.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit, fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. là c'est bien la faute Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah,
on se heurte dans cette question de proximité à la question des médecins, en fait, du nombre des médecins, de la volonté des médecins de se concentrer sur quelques mégapoles, en fait, d'avoir, en tant que couche sociale, en tant que technicien, enfin, des envies personnelles qui déterminent, en fait, des installations, qui déterminent donc des manques d'effectifs ailleurs. Comment on peut aborder cette question? Parce que la question du, est-ce que cette crise sanitaire a permis de se rendre compte qu'en fait, la santé, c'est d'abord un besoin citoyen, et c'est là que ça devrait être construit là-dessus. Est-ce que ça a avancé sur ce terrain-là, d'après toi ?
Ça a avancé, à mon avis, assez peu. Voilà. On s'est rendu compte que, par exemple, pour prendre un point, la nécessaire jonction entre la médecine de ville, on va appeler ça comme ça, plutôt privée, et la médecine publique, on va dire plutôt hospitalière, est absolument la clé pour résoudre une agression comme la crise, parce que sans cette convergence-là, on n'a pas suffisamment de moyens, ni d'un côté pour les libéraux, ni de l'autre pour les hôpitaux, pour y faire face. Donc ça a avancé, c'est vrai. Ça n'empêche qu'on a un blocage en France qui est terrible, c'est celui du maintien d'une, je ne veux pas dire d'une médecine capitaliste, parce que ça fait abondir tout le monde, mais les libéraux, c'est bien ça, quoi. C'est-à-dire, ce sont des médecins qui ont une vision personnelle, d'abord, de l'exercice de leur métier, avec, bien sûr, les règles du métier, une belle déontologie, d'excellents professionnels, ça, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais, par exemple, pendant longtemps, les médecins libéraux, entre guillemets, s'occuper assez peu de l'hôpital public qui était pour eux concurrentiel. Dans l'hôpital public, c'est plutôt des salariés, chez les libéraux, c'est des petits entrepreneurs, quoi. Et ça, c'est difficile à faire passer. Je vais prendre un exemple, puisque tu parles de la proximité. Pour nous, la coordination, et pour moi, depuis 50 ans de lutte, la proximité, c'est ce qui fonde notre République, c'est ce qui fonde notre système social, c'est ce qui permet aux gens de vivre là où ils ont envie, avec les mêmes droits, les mêmes avantages qu'ailleurs, et donc c'est ce qui garantit l'harmonie sociale qui nous est chère. Sans cette proximité, on ne peut pas y arriver. Or, pour les médecins, la proximité, pour eux, c'est quand ça les intéresse. Ce n'est pas quand ils en ont fait un choix d'éthique ou un choix politique. Je prends l'exemple de quelque chose qui me nerve, moi, depuis très très longtemps, c'est le maintien de la liberté d'installation pour l'installation des nouveaux médecins. La liberté d'installation qui, pour les leaders de médecine, est juste un avantage égoïste et corporatiste. On permet à des gens qui assument une fonction de base de s'installer en fonction de leurs envies et non pas en fonction des besoins des populations. Et je pense que ça, c'est un point crucial, parce que quand il n'y a plus de médecins généralistes, tout le monde fonce dans les rares endroits qui restent encore un petit peu ouverts, qui sont essentiellement les urgences hospitalières, et c'est une des causes de l'engorgement de nos urgences. C'est pas la seule, hein, je le dis bien, mais c'est quand même une des causes. Et on est en toute incohérence. La liberté d'installation, elle doit être revue, elle doit être limitée. Si on en conserve une partie pour faire plaisir à ceux qui la choisissent, il faut qu'ils assument aussi une partie de fonction publique. Bon sang, les médecins, ils ont une formation qui est universitaire, ils bénéficient de la sécurité sociale comme on est quasi-fonctionnaires, ils font partie d'une société qui, grâce à l'éducation qu'ils ont reçue, leur a permis d'être ce qu'ils sont. Donc ils sont, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais redevables vis-à-vis de la société, au moins partiellement. Et si on en arrivait à avoir, par la nomination, au moins sur plusieurs années, 2-3 ans, les associations d'élus, nous-mêmes, on a des propositions un peu divergentes là-dessus, pour assurer la médecine là où ça manque, on aurait déjà une meilleure capacité de résistance aux crises et une meilleure capacité de répondre aux besoins nécessaires et égalitaires de nos populations. Voilà un exemple de nos incohérences, quoi.
Une difficulté pointée, c'est effectivement, pour parler de la période, c'est que les médecins de ville se sont beaucoup plaints du fait de ne pas avoir été associés à la mobilisation de santé, notamment par les hôpitaux. Et avoir, bah, y compris, il y a eu toute l'affaire des masques, enfin, il y a eu tout ça, et puis sur la chloroquine aussi, le fait qu'on leur interdise à eux certains traitements, tout ça. Là, on a l'impression quand même de ne pas avoir avancé. Deuxième réflexion, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, tu l'évoquais au début, cette crise du point de vue strictement médical n'est pas une nouveauté, il y a eu des crises parfois pires dans l'histoire, mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas une réaction politique très particulière, avec y compris un discours, c'était aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, un discours sur le thème, oui, oh ben ça ne sera plus jamais comme avant, on vient de prendre conscience, donc, et puis du coup, en fin de compte, l'impression c'est que ça risque d'être comme avant, mais plus violent. Donc, d'une certaine manière, ce sera peut-être plus comme avant, mais pas tout à fait comme on pouvait l'espérer. Là, il y a quelque chose d'un peu compliqué. C'est que c'est à la fois une crise grave, et nous, on le dit en disant, on n'a pas été assez écoutés, vous voyez, on avait raison, et c'est grave ce qui se passe. Et en même temps, cette gravité semble utilisée pour aggraver la situation. C'est quelque chose de très compliqué à gérer, ça.
Oui, c'est évidemment très compliqué. Ben, tant qu'on n'a pas touché à une volonté politique de retrouver une nouvelle politique de sanitaire et de s'en donner les moyens, on n'avancera pas. Moi, je vois par exemple, quand on a sollicité les élus nationaux pour le vote de l'ONDAM, le budget de la santé, hein, on va appeler ça d'une manière simple, qui était en augmentation de quelques pourcents, alors que le hausse des coûts généraux dans l'hôpital était de 5% à peu près, donc en dessous. Ils ont tous eu la lâcheté de ne pas nous répondre et puis de voter en bloc le budget. Mmh. Quand on leur a rappelé, regardez, messieurs, mesdames, la crise sanitaire d'aujourd'hui, vous en êtes responsables, vous votez des budgets de misère et puis vous osez intervenir localement pour défendre parfois une maternité ou une urgence qui ferme. Vous êtes complètement incohérent parce que tous les partis politiques ont développé cela. Ils ont mis en place depuis Bachelot, moi je vois Madame Bachelot, c'est le pire scandale peut-être du nouveau gouvernement. Elle passe comme quelqu'un qui a réussi à certains points à sauver pour certaines affaires de masques. Madame Bachelot, c'est la loi hôpital et territoire qui a mis en place le pire, c'est-à-dire la T2A dans les hôpitaux, une méthode américaine pour faire du fric sur les opérations les plus rentables. Je caricature un peu, hein, j'en suis conscient, je suis militant, mais c'est quand même bien ça. C'est elle qui a remis en état les concentrations, fusion-absorption des petits hôpitaux avec son ami Guy Valencien. C'est quelque chose de fou, quoi. On récupère en ministre, même si c'est celui de la culture, une personne qui est peut-être à l'origine de l'accélération de la crise de l'hôpital public. Et elle a mis en place surtout les ARS qui remplaçaient les ARH, alors Agence Régionale de Santé, à la place de l'Agence Régionale Hospitalière, c'est déjà plus général. Qu'est-ce que c'est que les ARS ? C'est l'antithèse de toute politique de proximité démocratique républicaine de santé publique, puisque c'est une superbe préfecture par région, nommée directement par le ministère et en accord avec le président de la République, qui sont là pour appliquer la politique de gestion de la pénurie qu'ils ont créée, quoi. On peut caricaturer cela comme ça sans se tromper, et ce sont d'immenses machines où un grand nombre de médecins ne font plus de médecine parce qu'ils sont devenus donc des conseillers, des employés, des responsables qui gèrent la santé publique selon les directives ministérielles et gouvernementales. Et de ce fait, il n'y a plus l'autonomie, la capacité de régulation que les régions auraient peut-être pu mettre en place. On peut critiquer la régionalisation, la départementalisation, tout ça. Ça ramenait quand même le pouvoir de décision et de prise en compte des besoins au plus proche des gens, et c'était déjà, à mon avis, un mieux. Mais on n'a pas donné les moyens pour que cette régionalisation s'approche d'une autogestion sainement pensée, on va dire comme ça sans jeu de mots, de la santé publique.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Ces ARS, si on ne les supprime pas, si on ne les rénove pas, ben, ils sont payés pour ça, ils ont été formés pour ça, ils ont le même langage partout, ils font exactement la même chose partout. Ils arrivent à faire passer ou à faire croire aux gens en jouant sur la sécurité, sur de fausses conceptions financières, sur la peur. Ben voilà, il faut faire ça, on doit réduire ici parce que c'est comme ça qu'on gère notre budget, c'est comme ça qu'on va vous assurer au mieux pour la santé. Ce sont des automates, hein. Même si parmi eux, il y a des cadres d'une grande intelligence, j'en ai connu, moi, ou combien dans les régions que j'ai rencontrées, mais ils appliquaient toujours la même politique. Quand ils nous racontaient leurs histoires en disant « c'est pour votre bien, c'est pour le bien local », je disais « sauf que ce que vous dites ici à Saint-Afrique, je l'ai entendu à Paimpol en Bretagne, ou à Lure chez moi, ou à Valréas ailleurs, et donc c'est le même discours. Ils sont formés pour ça, quoi. On doit s'interroger, nous, pour une politique de santé de l'avenir, sur des structures qui soient plus proches des réalités et de la proximité. On avait des propositions, on n'est pas les seuls, il y a d'autres partis et syndicats qui en ont du même genre. Il faut qu'on arrive à avoir des structures sanitaires de gestion, de coordination, qui concernent l'ensemble des moyens sanitaires et qui sont à proximité, soit départementales, soit communautés de communes, soit régionales, quelque chose, une ossature qu'en tout cas qui prenne en compte notre réalité politique, et puis surtout qui redonne le pouvoir à ceux qui ne l'ont pas. Et le pouvoir, ceux qui n'ont pas, c'est les principaux intéressés. Ce sont les usagers, ce sont les personnels et ce sont les élus locaux parce qu'ils ont été dépossédés lorsque Mme Bachelot a créé les conseils de surveillance dans les hôpitaux. Elle a supprimé les anciens conseils d'administration. Ça, les gens ne s'en rendent pas bien compte. Les conseils d'administration dans les hôpitaux auparavant, ben, élus, usagers, syndicats étaient bien représentés, avaient leur mot à dire, même s'ils n'étaient pas aussi actifs qu'on aurait aimé le penser et le faire, ils avaient quand même un pouvoir démocratique de blocage ou d'avancée. Aujourd'hui, les conseils de surveillance sont purement consultatifs, quoi. Ça veut dire qu'on n'a même plus de pouvoir d'accès ou de participation aux décisions prises. Et donc, on est dans un système pyramidal qui est le pire de ce qu'on pourrait penser en termes de démocratie au plus proche des gens et pour moi, de démocratie la plus directe possible, quoi.
Donc ça, c'est des questions qu'il va falloir réussir à faire émerger parce que, très honnêtement, elles ne sont pas présentes dans l'analyse de la crise pour l'opinion publique, parce que là, on a un vrai, vrai problème avec les médias de ce point de vue-là. Quoi. Ça va être sûrement des éléments de mobilisation. Est-ce qu'on peut faire un point avec toi, en profitant de t'avoir, sur deux questions, mais en commençant par l'histoire, puisque tu étais un des fondateurs de cette coordination nationale, comment ça s'est passé chez vous pour que votre comité local, en fait, en arrive à être à l'initiative, à descendre dans le sud de la France sur une lutte à Sainte-Afrique et à porter et toi personnellement, mais avec ton tour comité, cette bataille pour la création d'une coordination nationale, parce que c'est assez compliqué. C'est vrai que les mobilisations aujourd'hui pour la défense d'un hôpital, d'une maternité, etc., se passent souvent sur la base d'un accord local qui est unitaire et qui, du coup, l'espèce de compromis entre des forces parfois antagoniques se passe sur « oui, mais on défend ensemble le local ». Et penser brusquement construire une structure nationale, ça a dû être une difficulté quand même historiquement.
Oui. Pas une difficulté à relativiser. Les luttes dans le domaine hospitalier, comme tu l'as dit très bien, ont reposé sur des comités, on va dire, républicains, démocratiques, d'usagers ou d'habitants, avec parfois du personnel, parfois pas, mais globalement, ça existe. Et ça s'est généralisé dans les années 1990. Ça existait avant, hein. J'ai cité le mien qui date de 1980. J'ai connu dans les années 80, il y avait Paimpol, que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui avait été un gros exemple de résistance. Voilà. Ces comités, ils étaient actifs, ils avaient parfois l'appui syndical, ils avaient du mal à avoir le retentissement national nécessaire ou régional nécessaire pour pouvoir avancer encore plus fermement dans leur résistance. Quand en 2003, Allure, on lance Allure et Luxeuil, donc au pied des Vosges pour les auditeurs qui ne sont pas au fait, entre Belfort et Vesoul pour simplifier, on avait perdu les urgences. Voilà, on était parmi les pionniers à réduire les urgences de l'Allure et faire de fausses urgences, qu'on appelle les accueils de soins non programmés, ce qui permettait de ne pas avoir d'urgentisme et de fermer la nuit. Donc on s'est battu là-dessus, au nom de l'égalité territoriale, en disant à Vesoul, Allure et à Luxeuil, il faut les mêmes choses. On lance un référendum d'initiative populaire. On avait réussi à mobiliser 110 communes à peu près. On avait réussi à amener à voter dans un vote référendum public interdit. La préfecture menaçait les maires qui participaient, c'est pour dire. On avait réussi à faire se déplacer la moitié du corps électoral dans une forme de référendum sauvage, c'est assez exceptionnel. Et ça se passait dans d'autres endroits. Il y avait dans l'Aveyron, dans les Ardennes, des cas un peu similaires. Donc, je dis bon sang. À quoi ça rime de faire les mêmes choses à différents endroits, puis de rester dispersé. Et donc, quand on a eu le résultat de notre référendum, en janvier 2004 à Lure, j'avais invité le maire de Sainte-Afrique, Alain Fauconnier, j'avais invité les représentants de l'époque de Sainte-Afrique, du comité qui vivait sur votre hôpital, donc je pense à Pierre Chevalier, à François Buda, on était suivis par Isabelle Treps, pour les gens locaux que vous connaissez bien.
Ouais.
Il y avait déjà Rose, mon amie Rose, qui était dans l'affaire, ils sont venus, donc il y en a une délégation, ils étaient venus à trois sur l'Ure, on s'est dit, voilà, on fait la même chose, on se bat pour les mêmes raisons, bon sang de bonsoir, il faut mettre quelque chose sur pied. Et donc on a fait jouer tous nos réseaux, le réseau syndicaux, les réseaux d'élus, la part de Fauconnier, là, qui était à l'époque sur ce plan irremplaçable par ses liens avec les multiples associations d'élus et puis surtout la région de Midi-Pyrénées. Et on a sollicité les autres associations que vous connaissez, qu'on s'est dit, allez hop, tous à Sainte-Afrique, une lutte qu'on avait déjà largement soutenue auparavant, l'histoire du viaduc et tout, c'est votre histoire, vous la raconterez mieux que moi, mais on y a largement aussi contribué de l'extérieur. Et en avril 2004, c'est-à-dire 3 mois après la prise de décision à Lure pour monter une fédération, on la met en place avec une trentaine de comités actifs, quoi. Aujourd'hui, la coordination compte une centaine. La différence avec l'époque et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était surtout les villes de petite taille qui étaient touchées. Sainte-Afrique, Lure, Valréas, Paimpol, Luçon, c'est des villes qui sont des villes de petite dimension. Et c'est pour ça qu'on avait l'appui de l'association des petites villes de France, parce qu'ils s'y connaissaient dans nos actions. Aujourd'hui, la grosse différence avec cette époque, qui était peut-être un avantage parce qu'on se retrouvait entre nous, c'est que comme c'est tout l'hôpital public et toute la santé publique qui est touchée, eh bien nos comités récents, ce sont les Lilas, c'est Ivry, c'est Nice, c'est Nantes. On a des actions à Toulouse. On est passé à une autre dimension parce qu'on touche tout le monde. Quoi. Alors, la grosse difficulté pour fonder la coordination, pour reprendre ta question, c'était de réanimer les contacts locaux, puis les convertir à cette idée d'une nécessaire unité, au moins nationale, pour renforcer nos revendications locales. D'une manière globale, l'idée était bien partagée. Par contre, après, il fallait savoir qui toucher. Et là, on est tombé dans les nébuleuses avec leurs divisions, leurs histoires particulières. Parfois, on avait l'UNSA, parfois, on avait l'FO, parfois, on avait Sud, parfois, on avait CGT. Au niveau syndical, c'était très complexe. Quand on avait l'un, on n'avait pas forcément les autres. Au niveau des associations, c'était un peu pareil. Au niveau des partis politiques, bien, c'était aussi la même chose. Donc, il a fallu faire mariner tout ça ensemble. Et c'est vrai que la rencontre de Saint-Afrique en avril 2004 était une belle chose, quoi. On avait investi toute votre petite ville, toutes les salles publiques étaient occupées, il y avait des gens qui discutaient de partout. On avait l'appui de groupements qui n'étaient pourtant pas forcément sur nos bases au départ, comme l'a fait FNSEA, qui avait bien compris dans votre secteur l'importance de maintenir la proximité. José Bové était là, Patrick Pellou pour les urgentistes était venu. On avait pas mal de vedettes aussi médiatiques, on va dire ça comme ça, avec guillemets, hein. Et donc ça a permis dans l'enthousiasme de fonder quelque chose qui après a été très très lourd à maintenir, quoi. Parce que quand on crée une fédération et quand on y respecte ce qui est la base de toute fédération, à mon sens, moi le vieux libertaire que je suis, c'est l'autonomie des comités locaux. Quand on y respecte l'autonomie des comités locaux, ben il faut mettre une structure souple, mais quand même régulière, avec des moyens, avec un secrétariat, et ça a été très très lourd. Donc Saint-Afrique l'a assumé la première année. J'ai pris la suite, moi, sur l'URE pendant une dizaine d'années ensuite. Mais il a fallu qu'on se dote d'un secrétariat, il a fallu qu'on embauche même ici une secrétaire à mi-temps parce qu'on n'arrivait plus sur le plan militant à assumer les charges de coordination. Par contre, cette coordination, elle a le mérite d'exister et d'emblée, elle a défendu l'essentiel. Ça, c'est un peu notre fierté à nous tous, c'est d'avoir maintenu une forme de fédéralisme libertaire, respectueux des autonomies et puis d'être efficace sur l'expertise, quoi.
Et voilà. Cette émission se termine. Heureux d'avoir passé un bon moment avec vous, en espérant vous avoir apporté les informations. Nous sommes dans une période où la mobilisation reprend. Et c'est heureux parce que, après avoir été matraqué, estropié, gazé dans les manifestations pour les retraites, dans les manifestations des Gilets jaunes, le gouvernement veut maintenant interdire les images qui permettent de dénoncer les violences policières. Mais les mobilisations prennent de l'ampleur. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'Alex, qui fait la technique, mais qui s'est aussi occupé des parties musicales et du montage. Je l'en remercie. À bientôt tous.
À la vôtre. L'émission
Santé
de Radio Saint-Afrique.